9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Les présidentielles sont dans 8 mois et seuls les écologistes ont organisé une primaire. Du côté des Républicains et des Socialistes, on freine des quatre fers en dépit des candidatures qui se multiplient. Mon premier invité ce matin est le politologue Pascal Perrineau qui a publié cet été une étude sur les systèmes de départage des candidats. Je recevrai ensuite Claude Habib pour son livre La question trans. Le nombre et la visibilité des personnes transgenres a beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie, ce qui provoque un véritable casse-tête juridique et pas mal de problèmes de vocabulaire. Et l'on terminera l'émission avec l'actrice Anaïs de Moustier et la réalisatrice Charline Bourgeois-Taquet pour leur film Les Amours d'Anaïs qui sort mercredi prochain.
Europe 1.
Pascal Perrineau, vous êtes politologue, vous avez publié en août dernier avec Laurence Morel une étude sur les primaires et les systèmes de départage des candidats à l'élection présidentielle. C'est sur le site de Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Or, le problème devient de plus en plus insoluble. Les candidatures se multiplient à droite et à gauche. Seuls les écologistes, pour l'instant, ont organisé leurs primaires. Et on sait qu'Anne Hidalgo va déclarer sa candidature aujourd'hui. Mais on ne sait pas si elle va déclarer sa candidature à l'élection présidentielle ou à la primaire socialiste fermée que Olivier Faure a promis d'organiser.
En effet, tout dépendra de la manière dont réagit le Parti socialiste. Est-ce que le Parti socialiste, qui au fond était le parti qui avait introduit concrètement la culture de la primaire dans la culture politique française, est-ce que ce parti socialiste veut continuer? Est-ce qu'il a plusieurs candidats? Parce qu'une primaire avec un seul candidat, ça ne serait pas extraordinaire. Voilà.
Il y a Arnaud Bontebourg.
Oui, Arnaud Bontebourg est hors de la galaxie socialiste aujourd'hui. Bon, on sait que M. Le Foll aimerait bien éventuellement être candidat pour représenter la vieille sensibilité hollandiste. Mais en effet, il y a une interrogation, comme il y a une interrogation à droite. Alors pourquoi cette interrogation? C'est au fond parce que les partis ont posé, plus ou moins les grands partis, un postulat qui est étrange, qui consiste à dire, en effet, la primaire, c'est une machine à perdre. C'est une machine à perdre, alors surtout à partir du fameux cas Fillon. Mais le cas Fillon, quand on le reprend en détail, on s'aperçoit que si François Fillon a perdu, c'est largement à cause de François Fillon. Ça n'est pas à cause de la procédure de la primaire, qui au contraire, après la primaire, il était au sommet. Tout le monde l'annonçait comme le prochain président de la République. On se demandait même si c'était utile d'organiser une élection présidentielle. C'est François Fillon qui a creusé lui-même sa propre tombe. Donc, y a là quelque chose de très contestable. Et d'ailleurs, dans les débats intellectuels, dans la science politique, dont on rend compte sur ce système de primaire, en particulier à partir du cas américain, la thèse de la primaire machine à perdre est fortement contestable. Elle est revendiquée à chaque fois par celui qui a perdu, c'est-à-dire le parti qui a perdu. Les Républicains, quand ils perdent l'élection présidentielle, disent c'est vraiment une machine à perdre, et vice-versa pour les démocrates.
On peut se dire que la primaire pourrait être une machine à perdre si, par exemple, les militants avaient tendance à voter pour un candidat qui n'aurait aucune chance à l'échelle nationale. On pourrait prendre le cas de Benoît Hamon. Il est élu par des militants de gauche. C'est une primaire ouverte à ce moment-là, mais il ne fait que 6 et quelques pourcents à la présidentielle. Le cas Eva Joly aussi, on s'en souvient, la primaire écologiste qui bat Nicolas Hulot, mais qui fera évidemment devant les Français beaucoup moins de voix que Nicolas Hulot.
Tout à fait. Mais il faut bien voir que lorsque Benoît Hamon est choisi par les électeurs proches du Parti Socialiste, ou lorsque Eva Joly est choisie par les quelques adhérents d'Europe Écologie Les Verts, ce sont des candidats qui n'ont aucune chance de victoire. En revanche, quand François Hollande est choisi en 2011, quand François Fillon est choisi en 2016, ce sont des candidats qui ont une véritable chance de victoire. Si vous voulez, les primaires, il ne s'agit pas de dire que les primaires c'est génial, vous voyez, non plus. Mais enfin, les primaires ne sont le reflet que de la crise des partis. Jadis, les partis étaient de grands partis, avec un nombre extrêmement important de militants, de relais, d'élus locaux, de corps intermédiaires autour d'eux, les jeunesses, les femmes étaient organisées, etc. Les cercles professionnels. Aujourd'hui, mais les partis sont exsangues. Hein, même un parti comme le Parti Socialiste, on dit que c'est 20 000 adhérents, vous vous rendez compte? Or, il y a des millions d'électeurs qui éventuellement iront voter pour un socialiste. Donc les partis ne représentent plus, au fond c'est ça la fameuse crise de la représentation politique, ils ne représentent plus les intérêts de celles et ceux qui éventuellement vont aller voter pour eux le jour de l'élection. Donc ils n'ont plus la légitimité en amont pour sélectionner une candidate ou un candidat. Donc il y a quoi au fond ? Il y a le choix par les professionnels de la politique, qu'ils soient militants ou les dirigeants des partis. Il y a l'autoproclamation, ça pratique beaucoup. Vous verrez, Emmanuel Macron, lui, il ne va pas demander l'avis des militants de La République En Marche. Voilà, Mélenchon, il s'autoproclame. Hein, voilà. Donc,
mais la tendance est à l'autoproclamation. Voilà, Xavier Bertrand s'est autoproclamé
candidat.
Bien sûr,
on s'autoproclame.
Mais pardon de vous interrompre, oui. Pascal Perrineau, vous dites que les partis se sont affaiblis. C'est certain, mais leurs chefs aussi se sont affaiblis. Giscard, Mitterrand, Chirac et même Nicolas Sarkozy en 2007
alors là, vous abordez.
N'avaient aucun mal à imposer leur leadership sur le parti, sur les militants et sur les électeurs de leur camp. Nul ne se risquait à le contester, alors que c'est exactement le contraire qui se passe aujourd'hui. Aucun leader ne parvient à s'imposer, ni au PS, ni chez les Républicains.
Bien sûr. Là, il faut, à côté de la crise de la représentation politique, pour comprendre l'espace compris les primaires, il faut bien voir qu'il y a une crise de leadership. Crise de leadership dans le monde politique, mais bien ailleurs. Crise de leadership dans l'entreprise, crise de leadership dans l'église, crise de leadership dans l'université. Comme je suis prof, je connais bien les choses. Où est la figure du grand prof aujourd'hui? Vous savez, on les cherche sur les doigts d'une main, le grand professeur. Pour nous, les générations, moi j'étais étudiant dans les années 68, 70, 72, on rentrait dans n'importe quelle université, il y avait le grand prof qui fascinait l'amphi, etc. Tout ça est totalement terminé, c'est une espèce en voie de disparition. Donc quand vous avez à la fois la crise du leadership et la crise de la représentation politique, au fond, la solution presque naturelle, c'est de se tourner vers celles et ceux qui, dans l'électorat, sont intéressés encore par la chose publique et veulent participer au choix du candidat ou de la candidate. C'est au fond, faute de mieux. Hein, comme Churchill disait que la démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes, eh bien, le partage par la primaire, c'est peut-être le moins mauvais des systèmes pour choisir un candidat ou une candidate.
Les primaires avaient très bonne réputation au départ, à peu près, alors à gauche, c'est certain, hein, et puis chez les écologistes aussi, puisqu'eux, ils n'ont jamais voulu de leader. Donc c'était logique. La primaire, c'est un système pour eux qui est imparable. En revanche, on voit bien que cette primaire qui maintenant a moins bonne réputation, la gauche comme la droite, au fond, a la nostalgie des grands leaders d'autrefois.
Des grands leaders et qui ne seront pas au rendez-vous. Hein, il n'y aura pas de grands leaders dans l'espace des gauches, il n'y aura pas de grands leaders dans l'espace des droites. On peut attendre, hein, et on peut attendre le second tour de l'élection présidentielle. Ça ne viendra pas. Donc il faut que d'autres mécanismes suscitent un homme ou une femme qui sera capable d'animer et de rassembler son camp et éventuellement de l'emporter dans le duel final. Mais vous avez dit, en effet, à juste titre, les écologistes s'y sont mis à cette primaire parce que pour eux c'est pratique, ils détestent la présidentielle, ils détestent les institutions verticales. La gauche s'y est mise, mais vous savez que dans l'histoire, c'est la droite, c'est Pasqua qui était le premier à avoir déposé un projet de primaire. Pourquoi? Parce que la droite, c'est la querelle des égaux.
À l'époque, c'était Balladur et Chirac.
Voilà, exactement.
On fait une pause, Pascal, et on se retrouve juste après. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette primaire que les uns souhaitent et que les autres détestent.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Pascal Perrineau, en 1980, au congrès de Metz du Parti Socialiste, François Mitterrand, qui dans quelques mois va emporter la présidentielle, se bat contre Michel Rocard, allié à Pierre Mauroy. À l'époque, évidemment, les commentateurs le savent, en parlent, les militants sont au courant, puisqu'ils vont devoir les départager en votant pour une motion ou une autre. C'était comme ça que fonctionnait le Parti Socialiste. Mais le grand public, les électeurs, au fond, c'est très très peu de choses. On ne sait pas à ce moment-là que Mitterrand est contre Mauroy, ou plus exactement que Mauroy est contre Mitterrand, et qu'il lui dispute le leadership du parti. Michel Rocard, on était à peu près au courant, mais Mauroy, on l'ignorait. Mauroy va devenir le Premier ministre de François Mitterrand quelques mois plus tard. À l'époque, ces scissions-là étaient était cachée. On peut reprocher aujourd'hui à une primaire, quand on en organise une, de montrer à tout le monde les divisions.
Oui, en effet, la primaire, ça donne à voir les divisions entre les personnes, les divisions parfois, pas toujours, entre les projets. Parce que même quand vous regardez attentivement les primaires de droite ou de gauche, parfois on se demande ce qui sépare profondément ces candidats. Même si, par exemple, la dernière primaire de la gauche, entre Manuel Valls et Benoît Hamon, il y avait de véritables différences. Il y avait bien ces fameuses deux gauches qui, au travers de ces hommes, s'affrontaient. Dans le projet de Fillon, il y avait une dimension conservatrice en matière de sociétale qu'on ne retrouvait pas du tout au même degré, par exemple, chez Nicolas Sarkozy
ou chez Alain Juppé.
Hein. Donc, c'est aussi l'occasion d'exprimer, on l'a vu dans les primaires américaines, les dernières primaires américaines, ça a été très intéressant. Il y avait des candidats qu'on pouvait qualifier de la gauche du Parti démocrate, comme Bernie Sanders et d'autres, qui ont pu s'exprimer. Et au fond, c'est un candidat à dimension plus centriste, Joe Biden, qui l'a emporté. Donc, les primaires, c'est l'occasion aussi d'un débat et pas simplement de l'affrontement d'hommes et de femmes.
Parfois, ça tourne quand même effectivement au bal des personnalités. On se souvient de la primaire qui avait désigné Ségolène Royal pour le Parti Socialiste. Là aussi, certains ont parlé de machine à perdre en disant que Ségolène Royal n'avait aucune chance d'emporter la présidentielle, même si elle était la plus sympathique à la primaire, et que Dominique Strauss-Kahn, par exemple, aurait été plus sérieux. On ne savait pas tout sur Dominique Strauss-Kahn à ce moment-là. Mais il paraissait beaucoup plus sérieux que Ségolène Royal. Tout ça aussi, ce serait voilà, le concours de celui qui est le plus sympathique.
Parce que les logiques d'opinion s'invitent dans les primaires. Alors que lorsque l'on confie cela aux professionnels, que ce soit les militants ou les responsables d'un parti, d'autres logiques, qui sont les logiques, par exemple, de capacité gouvernante, etc., peuvent intervenir. On l'avait vu avec, en effet, l'engouement, il faut bien parler de ça, de l'engouement pour Ségolène Royal. Il y avait un phénomène d'opinion. D'ailleurs, sa candidature avait été lancée au début, pas du tout par la presse politique, c'était la presse féminine qui l'avait lancée. Ça disait simplement quelque chose sur une société française qui avait envie de voir une femme prétendre aux plus hautes fonctions de l'État.
La première primaire au Parti Socialiste, c'était en 1995. Elle avait désigné Lionel Jospin face à Henri Emmanuelli. Déjà, problème de leadership à l'époque, hein, juste après la présidence de François Mitterrand. En 2002, la gauche n'a pas organisé de primaire parce que Lionel Jospin, Premier ministre depuis 5 ans, s'était imposé de lui-même. Mais il s'est retrouvé face à 7 candidats issus de la gauche et de l'extrême gauche et il ne pourra pas être au second tour. En 2017, Benoît Hamon n'en avait que 3 en face de lui, des candidats. Le candidat écologiste l'avait rallié avant l'élection et le Parti communiste avait rallié la candidature de Jean-Luc Mélenchon. En 2012, François Hollande n'en avait que 4 candidats de gauche ou d'extrême gauche en face de lui et il a été élu président de la République. Aujourd'hui, qui va les départager? Je ne parle pas seulement des candidats de gauche. Hein,
quand il n'y a pas de primaire, vous savez, c'est le premier tour qui sert au fond. De sélection.
Mais c'est trop tard, souvent. Il y a eu beaucoup de candidats.
C'est trop tard et ça fait des dégâts. Souvenez-vous, pour la gauche, en effet, vous l'avez dit, hein, en 2002, ça fait des dégâts. Si la droite, par exemple, ne choisit pas, au fond, une procédure de primaire, alors ensuite, quelle primaire? Ouverte, fermée, inclusive, exclusive, etc. Parce qu'il y a à un tour, à deux tours, etc. Si elle ne choisit pas la primaire, ça va être plusieurs candidatures. Et là, la droite est sûre qu'elle ne pourra pas accéder au second tour.
Le Xavier Bertrand, par exemple, dès le début, il a dit « je n'irai pas à la primaire » et de toute façon, il est lui-même sorti du Parti Les Républicains. Mais peut-il s'y soustraire, se demande le canard enchaîné de la semaine dernière, alors que Xavier Bertrand n'a pas de parti derrière lui, donc pas d'argent. Les Républicains ont déjà provisionné 12 millions d'euros pour le premier tour. Si Xavier Bertrand doit se contenter des dons individuels, il lui en faudra combien pour parvenir à cette somme? Sachant que le cadre enchaîné citait Emmanuel Macron en avait eu 35 000 en 2017 de 257 euros en moyenne. On est loin des 12 millions. Hein.
En effet, on en est très loin. Et l'argent, on le sait, même si ça n'est pas comme aux États-Unis, mais l'argent dans une élection présidentielle française est tout de même aussi Le nerf de la guerre est quand vous avez un appareil partisan, qui d'ailleurs est nourri par un financement public, que les Français connaissent bien, eh bien c'est tout de même beaucoup plus pratique. Alors Xavier Bertrand, il a fait un pari, au fond, qui a consisté à partir le premier en se disant, dans un paysage où il n'y a pas de candidat déclaré, potentiel, je vais pouvoir engager un processus vertueux de dynamique irrésistible et devenir le candidat, le fameux candidat naturel, avec de multiples guillemets, de la droite. Ça n'a marché qu'à moitié. Parce que, en effet, il est aujourd'hui crédité de 16 à 17% d'intention de vote, ce n'est pas négligeable. Il n'est plus très loin des 20%. Et si Marine Le Pen, en effet, s'affaisse, eh bien voilà, les courbes peuvent se croiser. Celle de la droite, celle de la droite extrême. Mais il n'a pas réussi à s'imposer. Et depuis que Valérie Pécresse est dans le jeu, on s'aperçoit que Valérie Pécresse talonne à 2-3 points, à peu près, Xavier Bertrand. Donc, il n'a pas réussi son pari d'être le candidat naturel. Et on ne voit pas très bien comment, dans les semaines qui viennent, avant le congrès de LR à la fin de septembre, il va pouvoir devenir ce candidat naturel. Donc, pour lui, c'est une situation compliquée, parce qu'il est obligé maintenant d'envoyer quelques signaux positifs à ce parti qui sélectionnera peut-être le processus des primaires, et de trouver à un moment ou à un autre un moyen de transiger avec ce parti.
Merci Pascal Perrineau. Je rappelle votre étude coécrite avec Laurence Morel sur les primaires et les systèmes de départage des candidats à l'élection présidentielle. On la trouve sur le site de Fondapol. On se retrouve dans un instant avec Claude Habib qui publie La question trans.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Claude Habib.
Bonjour Frédéric.
Vous avez écrit des livres sur la pudeur, sur le consentement amoureux, sur la galanterie, sur la prostitution, sur la tolérance, sur le goût de la vie commune que vous appelez le conjugalisme. Aujourd'hui, vous publiez La question trans chez Gallimard dans la collection Le Débat. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi cette question-là.
Parce que c'est une question émergente dans nos sociétés. C'est vraiment quelque chose qui apparaît. Moi j'étais prof et je connais beaucoup d'enseignants qui le voient dans leur classe où des jeunes filles très féminines avec des cheveux très longs disent « désormais appelez-moi Jean-Michel ». Bon, c'est une chose qui apparaît et comme c'est pas une nouveauté totale en Occident puisque dans tout le monde anglo-saxon et en Europe du Nord, c'est déjà un phénomène considérable, vu que dans les 10 dernières années, chez les filles, ça a augmenté de... chez les filles, c'est-à-dire celles qui vont devenir des hommes trans, ça a augmenté de 1000%. On sent que c'est un phénomène dont il faut tenir compte.
Oui, vous citez des chiffres, il y aurait 0,6% de trans chez les adultes aux États-Unis, mais il y en a déjà 3% chez les adolescents, donc ça s'est multiplié.
Alors ça s'est multiplié chez les jeunes, donc les pourcentages sont beaucoup plus élevés, mais en même temps la définition est d'une élasticité incroyable, puisque se dire trans, c'est déclaratif, hein. Cette étude dans le Minnesota, se dire trans, c'est dire que on n'est pas bien dans son sexe, qu'on pense qu'on fait partie de l'autre, mais ça n'engage pas absolument dans un parcours médical, hormonal, chirurgical. Il suffit de se dire trans, pense-t-il, pour être trans.
Alors c'est une des questions que vous abordez, vous en abordez plusieurs, puisque la question de la législation se pose un peu partout, hein, et puis la question des mots, parce que c'est pour des questions de mots qu'un certain nombre de gens, comme J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, ou la joueuse de tennis Martha Navratilova, ont été accusés de transphobie.
Oui, elles ont été vraiment brûlées en place publique, en tout cas dans les...
Symboliquement.
Symboliquement. Mais J.K. Rowling, elle arbore maintenant un t-shirt où il y a marqué « That witch doesn't burn ». Cette sorcière-là, elle ne brûle pas. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas pu l'annuler, ils n'ont pas pu faire que Hachette, son éditeur, refuse de la publier. Bon, c'est l'auteur le plus vendu du monde. Et là, ils se sont cassés les dents sur elle. Qu'est-ce qu'elle avait fait ? Elle avait, devant les nouveaux termes servant à désigner les femmes, à savoir « menstruator », les gens qui ont leur menstrue, les gens qui possèdent un col de l'utérus, « cervix haver ».
Oui, puisque les femmes trans se considèrent elles-mêmes comme des femmes, bien qu'elles n'en aient pas.
Oui, ce qui fait qu'il y avait la NHS, donc le service de santé anglais, britannique, qui avait fait une affiche sur laquelle il y avait marqué « les femmes doivent se faire tester pour le cancer du col de l'utérus ». Et il y a eu une levée de bouclier disant que c'était un énoncé transphobe parce que toutes les femmes n'ont pas un utérus. Il y a des femmes qui ont une prostate. Bon, alors devant ce flottement terminologique qui est vraiment l'indice des études queer. Les études queer, ce qu'elles veulent, c'est dynamiser toutes les frontières, toutes les oppositions, tout ce qu'elles appellent le binarisme, et considérer que le sexe est un continuum et non pas un concept binaire et figé sans circulation.
Alors il faut savoir qu'en France, parce que tout le monde ne le sait pas, Claude Habib, que les trans n'ont pas besoin d'avoir subi une opération de réassignation sexuelle, ni même d'avoir commencé un traitement hormonal pour être reconnues pour femmes, si elles veulent être des femmes, ou comme hommes, s'il s'agit de femmes qui transitent vers le genre masculin.
Ça, c'est important. La législation a changé en France parce qu'on s'est fait taper sur les doigts par la Cour européenne des droits de l'homme. Avant, la France, comme je crois encore la Finlande, exigeait qu'il y ait eu des opérations de réassignation sexuelle et donc de stérilisation, puisque quand vous faites une vaginoplastie, en général, vous enlevez le pénis ou vous ne pouvez plus faire d'enfant. Or, cette clause a paru contraire au respect de la vie privée. Et donc, on a imposé à la France de se plier à ce que demandaient les associations trans, à savoir qu'il n'y ait plus cette exigence. Alors, ce qui existe encore comme exigence, c'est que on doit avoir pendant 2 ans vécu sous les atours ou de la manière de l'autre sexe. Donc, il doit y avoir ça, il doit y avoir un avis médical et un jugement. Une fois qu'il y a ça, il n'y a pas besoin de prendre des hormones et il n'y a pas besoin d'opération. Alors, ce que les associations demandent, ça va beaucoup plus loin. Self-ID en anglais, l'auto-déclaration, où les trans n'ont pas besoin de passer un jugement. Ils disent simplement, voilà, je suis devenue une femme et c'est bon.
On fait une pause, Claude Habib, on se retrouve juste après.
Europe 1,
c'est arrivé demain.
Frédéric Tadié.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Tadié sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Claude Habib qui publie La question trans chez Gallimard dans la collection Le Débat et effectivement sacré du débat. J'avais reçu il y a un an dans cette émission d'ailleurs les avocates d'une femme trans. Par la Cour de cassation, car elle voulait être reconnue comme la mère de son enfant. On lui a répondu qu'elle pouvait être son père, mais pas sa mère, en effet. Cette affaire est célèbre, vous en parlez dans votre livre. Je me trompe ?
On lui a reconnu le droit d'être mère adoptive.
Oui,
elle était furieuse parce qu'elle voulait être mère.
Alors, et pour cause, elle était son père hein, à cet enfant, tout simplement. Il se trouve qu'elle avait été déclarée à l'état civil comme une femme, en gardant ses organes sexuels. Et donc, elle avait fait un enfant avec sa femme, quelques années plus tard. Et puis donc, elle demandait que l'État la reconnaisse comme mère, puisque l'État l'avait reconnue comme femme. Et on le lui a refusé. Et on va se retrouver probablement devant toutes sortes de situations similaires.
Hein. Oui, il y a un moment où on arrive à 2 plus 2 font 5. Hein, il y a un moment où on arrive à de la contre-vérité, de la fake news militante, et je pense qu'ils sont de toute bonne foi, ces gens qui veulent à la fois être un homme et être enceint. Je pense qu'ils sont de toute bonne foi, mais que quelque chose d'illogique les habite.
De même, il y a le cas des enfants. On dit qu'ils n'ont pas de consentement sexuel avant 13 ans ou 15 ans, selon les législations, mais on admet qu'ils puissent changer de sexe à partir de 8 ou 9 ans, puisque là aussi, il y a des revendications chez certains.
Alors, il y a des revendications pour commencer ces changements, cette transidentité à un niveau social, c'est-à-dire changer le prénom et changer les pronoms avec lesquels on s'adresse à cet enfant. Mais beaucoup plus tôt, hein, c'est dès 4 ans aux États-Unis, on n'attend pas 8 ans. Il y a cette manière d'entrer les enfants ou les adolescents dans un toboggan. Ce toboggan, c'est ce qu'on appelle le protocole hollandais, c'est-à-dire d'abord, si on prend un préadolescent avant la puberté, on lui donne un bloqueur de puberté qui a pas mal d'effets, dont arrêter la croissance, il reste plus petit, arrêter la maturation cérébrale aussi, donc persévère dans leur idée. Et 99,% passent ensuite aux hormones croisées, c'est-à-dire la testostérone pour les filles qui veulent se masculiniser, les œstrogènes pour les garçons. Bon, alors ce protocole était appliqué de manière vraiment routinière et en Grande-Bretagne et en Suède, et les deux en sont revenus. la Grande-Bretagne par jugement, la Suède par décision médicale.
Dans le sport aussi, ça pose des problèmes. Ce qui pose des problèmes, c'est tout simplement la participation de femmes trans aux épreuves de sport féminin. Et elles sont accusées de concurrence déloyale du fait de leur ossature, de leur musculation et de leur niveau justement de testostérone.
Oui, là, je ne sais pas si les gens ont regardé aux Jeux Olympiques l'athlète trans femme qui porte le poids, Laura Lubard. Même si elle n'a pas gagné cette fois-ci, je veux dire, il y a des jeunes filles néo-zélandaises qui s'entraînent dans ce sport et qui n'ont pas été sélectionnées pour les Jeux Olympiques parce qu'il y a cette concurrence déloyale.
Il y a également des lieux réservés aux femmes qui sont investis par les trans femmes, les vestiaires et les toilettes pour femmes, les prisons pour femmes, les collèges pour femmes, les refuges pour femmes battues.
Oui, le truc le plus grave, c'est bien sûr les prisons pour femmes, puisque des viols et des faits de harcèlement de co-détenus ont déjà eu lieu.
Et en effet, puisqu'il s'agit de femmes trans, mais qui, encore une fois, ont conservé leurs organes.
De femmes trans, mais avec...
Avec leurs organes sexuels masculins.
Comme on dit aux États-Unis, pénis féminin. Et pénis féminin, c'était ce que j'appelle un oxymore de campus. Hein, ça avait cours chez les étudiants. Maintenant, ça force de loi dans plusieurs États.
Or, il existe des transgenres qui sont hétérosexuels, mais aussi des transgenres qui sont homosexuels ou bisexuels.
Alors voilà, un des problèmes, c'est pour les lesbiennes, surtout... Toutes ces femmes trans qui pénètrent dans les lieux lesbiens, dans les discothèques lesbiennes et qui draguent des lesbiennes en leur reprochant d'être transphobes si elles ont un mouvement de recul devant un pénis féminin, avec des guillemets. Et qu'est-ce que c'est que ces femmes trans qui aiment les femmes ? Est-ce que ce n'est pas des loups de sous-peau de brebis par hasard ? Est-ce que ce n'est pas des hommes hétéros par hasard ? Enfin, on peut se poser la question. Donc là, il y a quelque chose de très abusif.
Il faut bien voir, Claude Habib, que tous les transgenres ne revendiquent pas la même chose. Hein. Certaines considèrent que les femmes trans sont toujours des hommes. Alors que d'autres proclament qu'elles ont toujours été des femmes et veulent être considérées comme telles. Femmes et mères quand elles ont eu des enfants. Et que,
variable. Voilà, Vous avez raison. C'est variable et il faut surtout pas assimiler, je dirais, à l'idéologie trans qui fait du lobbying, qui s'organise pour aller dans les écoles, repérer les petits trans très très tôt, les mettre à part. Bon. Alors, le lobbying des trans est une chose, la vie des personnes trans en est une autre. Et vous avez déjà, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, des femmes trans parfaitement délicieuses, comme Blair White, ou très comiques. Je pense à Rose of Dawn, qui sont sur des positions parfaitement raisonnables, qui sont contre la transition des enfants, qui disent qu'elles ont en partie une anatomie masculine, enfin qui sont raisonnables et qui sont du coup traitées de transphobes. C'est-à-dire que les victimes de cette idéologie trans, ce sont d'abord les enfants, ensuite les femmes qui sont privées de leurs espaces réservés et tertio, les véritables trans, ceux qui ont vraiment traversé des opérations, qui ont payé en temps, en
et qui ont véritablement changé de sexe. Et,
ben, on ne peut jamais véritablement changer de sexe. Au fond, si vous êtes XY, vous resterez XY et vous aurez toujours une prostate. Bon, ça, c'est des choses qui ne bougeront pas, mais qui ont tout fait pour avoir ce que les Américains appellent le passing, c'est-à-dire la vraisemblance. Le fait qu'elles passent pour des femmes, on les prend pour des femmes, ce n'est pas une contestation de l'ordre hétéro-normatif, je ne sais pas quoi, c'est simplement vouloir vivre calmement sous les atours de l'autre sexe. Et c'est tout à fait différent et elles, évidemment, elles ont peur d'une assimilation à ce mouvement inquiétant.
La question trans, c'est le nouveau livre de Claude Habib qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Le Débat. On fait une pause et ensuite on parle cinéma.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et une actrice et une réalisatrice m'ont rejoint dans ce studio. J'en suis ravi, j'ai l'impression que ça n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Anaïs de Moustier et Charline Bourgeois-Taquet. Les Amours d'Anaïs, votre film, on peut dire ça, vous en tenez le rôle principal, Anaïs de Moustier. Vous l'avez réalisé, Charline Bourgeois-Taquet, sort mercredi. Les Amours d'Anaïs, évidemment, comme elle s'appelle Anaïs de Moustier, on va se dire que c'est autobiographique, que c'est son portrait ou que c'est le vôtre, Charline Bourgeois-Taquet, et qu'elle est un peu votre Antoine Douanel. Aujourd'hui, c'est tellement la mode mode de chercher la réalité derrière les films que forcément j'ai l'impression que vous cherchez à nous induire en vérité ou en mensonge, je ne sais pas encore.
C'est un peu les deux, parce que je ne chercherai pas à dissimuler que je me suis beaucoup inspirée de moi, de ma vie, de mon expérience.
Donc vous êtes sans gêne, indépendante, sans un rond, fonceuse, vous courez
voilà.
tout le temps, vous êtes intrusive, égocentrique, délurée.
Insupportable, donc. Insupportable et irrésistible. Non, mais disons que j'ai nourri le personnage de moi, de beaucoup de choses de moi, mais ça m'amusait aussi beaucoup comme on se ressemble avec Anaïs. On a déjà fait un court-métrage ensemble et j'ai pu le constater qu'on avait beaucoup de points communs. Ça m'amusait d'appeler le personnage Anaïs pour brouiller un peu les frontières entre le réel et la fiction.
Et ça vous a pas dérangé, Anaïs de Moustier, de vous dire que voilà les étiquettes qu'on va vous affubler dorénavant ?
Non, ça m'a pas dérangé. De toute façon, à chaque fois que je joue un rôle, on me demande un peu les ponts entre le rôle et moi, donc je savais que ça changerait pas grand-chose.
Alors c'est ce que j'appelle moi un film tranche de vie, c'est une spécialité française, le film tranche de vie, c'est-à-dire qu'on va véritablement raconter la vie d'un personnage et au fond le film pourrait commencer plus tôt ou commencer plus tard, finir plus tôt ou finir plus tard, en l'occurrence l'intrigue, parce qu'il y en a une, c'est l'histoire d'une jeune femme qui après avoir eu une aventure avec un homme plus âgé qu'elle, fait une fixation sur l'épouse de celui-ci et entreprend de la séduire, mais ça arrive au bout d'un certain temps. Les Américains auraient commencé votre film, Charline, au bout de 40 minutes. Parce que c'est là qu'elle rencontre la femme.
Sans doute. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était à la fois de faire le portrait de cette jeune femme de 30 ans, complexe, et voilà, et de raconter une histoire d'amour et de désir entre... Bon, il se trouve que c'est entre deux femmes, mais en tout cas, il y avait ces deux choses-là. Et il fallait que je présente le personnage, parce que comme vous l'avez raconté, il est voilà, un peu singulier. Et... Enfin, j'aime pas tellement moi les recettes de scénario et les dramaturgies un peu imposées, et j'aime bien ce que vous appelez la tranche de vie, et ne pas résoudre forcément tout ce qu'on a mis en place au début du film. Je veux dire, voilà, si on observe quelqu'un dans sa vie, il n'y a pas toujours un début, un milieu, une fin si on l'observe pendant un temps donné.
Dans la vie, non. Dans les films, habituellement,
oui, mais moi je préfère que les films ressemblent à la vie.
Vous aussi, Anaïs de Moustier, parce que vous en avez fait beaucoup des films tranches de vie. Hein.
Oui, moi j'adore les errances du personnage. Enfin, c'est quand même un film qui raconte l'histoire d'une rencontre, une grande rencontre amoureuse, et donc je trouve beau de le voir le personnage errer avant. Avant la rencontre.
Oui, parce que la rencontre, c'est 40 minutes.
Ouais, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette rencontre, elle modifie mon personnage. Elle lui fait changer de rythme, parce que c'est un personnage, comme on l'a dit, qui est très dans la vitesse, très dans l'urgence. Et soudain, elle rencontre le personnage de Valeria Bruni, et on sent que ça la pose un peu. Et elle ne peut pas se poser si on n'a pas vu qu'elle était avant agitée et un peu en perdition.
Alors il y a un cas, Anaïs de Moustier, dans le cinéma français, dès qu'il y a des histoires d'amour qui sortent des sentiers battus, dès qu'il s'agit de faire des trucs qui sont un peu tabous quand même, on appelle Anaïs de Moustier. S'il s'agit de comme dans Ma nouvelle amie de François Ozon, de tomber dans les bras et de devenir la maîtresse d'une femme trans, interprétée par Romain Duris, c'est vous qui vous y collez. Quand dans A3 on y va... La jeune femme tombe amoureuse d'un couple, elle couche avec l'homme, elle couche avec la femme, puis avec les deux en même temps. On appelle Anaïs de Moustier. Ou dans Marguerite et Julien, quand il s'agit de vivre une passion incestueuse avec son propre frère, on appelle Anaïs de Moustier. Aux États-Unis, ils appelaient Sharon Stone, mais Sharon Stone, il y avait un côté angoissant. On se disait, où est le pic à glace ? Avec vous, on est rassuré. On sait que ça va bien se passer. Vous n'êtes jamais manipulatrice, jamais perverse, mais vous y allez, quoi.
Ouais, j'adore, j'avais pas remarqué, vous me faites prendre conscience de cette chose-là. C'était imprévu, j'aurais jamais pensé ça, mais bon, en fait, c'est vrai quand même, les amoureuses, c'est les meilleurs rôles, quoi.
C'est des amoureuses spéciales. Là, c'est une amoureuse spéciale, Charline, vous avez peut-être pensé à Anaïs de Moustier, parce que, à cause de ce que je viens de dire, quand je vous ai dit, elle couche avec un homme plus âgé, puis ensuite, elle décide de séduire sa femme. C'est pour Anaïs de Moustier.
Non, vraiment pas du tout, ça ne s'est pas passé dans ce sens-là. Non, c'est l'actrice idéale pour incarner ce personnage. On avait déjà travaillé ensemble, mais je pense pas qu'elle a parti... Enfin non, je n'associe pas Anaïs à des amours étranges.
Vous voyez bien que si c'était Sharon Stone, l'affiche, on aurait tout de suite peur. On se dit, oh là là, elle va séduire sa femme, mais c'est pas gentil. Alors qu'avec Anaïs, ça désamorce complètement.
Ça, c'est vrai. Et ce qui m'arrangeait aussi, c'était qu'Anaïs, elle a un énorme capital de sympathie, je dirais. Et que comme le personnage peut avoir des côtés un peu excessifs, parce que moi, j'ai un peu travailler les excès du personnage pour aller du côté de la comédie. Ça m'arrangeait beaucoup qu'Anaïs l'incarne, Anaïs de Moustier, parce que ça allait compenser tout ça et le personnage allait être forcément charmant parce que c'était elle.
Voilà. Comment faites-vous pour, dans tous ces rôles, ne jamais avoir l'air ni manipulatrice, ni perverse ?
Je crois que c'est la croyance, en fait. C'est que moi, quand je joue un personnage, je suis absolument pas dans le jugement et j'essaye au maximum de comprendre ce qui traverse le personnage. Et donc, je suis pas du tout dans un sens de stratégie ou de toute façon ces gens sont pas des manipulateurs ou des enfin puis après il y a quelque chose de ma nature qui se dégage de moi. Enfin, ouais, Jérôme Bonnel, il disait ça, il disait que j'avais l'air...
C'est de réalisateur de A3, on y va.
A3, on y va, ouais. Il disait le feu sous la glace, ou je sais pas, que j'avais l'air d'être plutôt froide, alors qu'en fait, non. Enfin, voilà, il y a des choses qui m'échappent aussi.
Mais ça va aussi, je pense, avec les scénarios, parce que dans les films que vous citez, moi, j'ai pas l'impression que les personnages soient manipulateurs.
Ouais. Non, non,
oui, dans
c'est
le mien,
vrai, c'est une question d'écriture.
Il y a absolument aucune perversité, aucune manipulation. Pour moi, c'est de la sincérité, un élan. Donc je...
Au fond, dès qu'Anaïs incarne un tabou, on peut dire que le tabou n'existe plus.
Voilà.
C'est
la preuve qu'il n'est plus là, on peut y aller.
Ouais, c'est vrai.
Super bien.
Autre caractéristique de votre film, Charline Bourgeois-Taquet, les femmes y sont toutes déterminées, responsables. C'est Valéria Bonitédeschi qui joue le rôle de l'épouse, mais il y a aussi des personnages féminins très variés. Il y a la mère d'Anaïs et toutes sont parfaitement... elles prennent les devants, quoi. Elles contrôlent, il n'y a pas de problème. Les hommes, en revanche, sont plutôt des victimes. Ils subissent. N'y voyez pas de ma part aucune revendication. Moi, ça ne pose pas de problème. Pendant des années, on a montré des femmes potiches au cinéma. Qu'on y montre des hommes potiches, je me réjouis. Hein.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce terme. Non, je ne dirais pas qu'ils subissent. Mais c'est vrai que les personnages féminins sont plus forts, et notamment les deux personnages principaux. Mais je dois dire que beaucoup de personnages masculins, je les ai écrits pour, disons, amener ou conserver de la comédie au long du film. Donc le personnage...
Pour en rire, quoi.
Oui, mais les personnages secondaires, je veux dire, comme l'homme à tout faire, qui est joué par Jean-Charles Cliché, il est clairement là pour que la comédie soit encore présente dans la deuxième partie.
Mais Denis Podalides n'est pas très vaillant, hein. C'est lui qui joue le rôle de l'homme plus âgé.
Je ne veux pas me lancer dans un débat sur la masculinité, sur les hommes, mais ce n'est pas le contraire de certains hommes que j'ai pu croiser dans ma vie.
Ah non, non, bien sûr, il y en a comme ça. Mais là, il n'y en a que comme ça. C'est ça que je voulais vous dire. Vous l'avez remarqué quand même, Anaïs de Moustier.
Oui, oui, c'est
ils sont
que...
pas très fringants. Hein.
Non, ils sont pas très fringants, c'est ça. Ils sont, enfin, ouais, c'est vrai que c'est souvent eux qui sont un peu dans. Soit ils sont victimes, soit ils sont un peu dans le mensonge. Enfin, ils sont pas. C'est pas la classe, quoi, clairement. Non, les personnages féminins ont plus de hauteur.
Oui,
mais Charline a du mal à l'avouer, mais ça, en fait, c'est un peu vrai.
Non, mais le personnage, en tout cas principal, moi, ce qui m'intéressait, c'est de représenter une jeune femme qui est absolument guidée par son désir. Donc, c'est vrai que ça lui donne une énergie, une fougue que les personnages masculins n'ont pas. Et il se trouve que c'est une femme assez jeune et que Valéria Bruni-Tedeschi incarne une écrivaine qui a 20 ou 25 ans de plus. Et comme Anaïs se projette et qu'elle l'admire et qu'elle est fascinée, c'est vrai que...
Enfin, elle veut se la faire.
Les deux, voilà. Elle ne bon, le sait pas au départ, mais c'est vrai qu'elle tombe amoureuse d'elle.
Moi, je
le savais
dès le départ. Mais...
Ah, vous êtes fort. Vous aviez un temps d'avance sur elle. En tout cas, voilà, ça donne deux personnages beaux, je trouve. Et celui de Valéria est assez... elle a une sorte d'aura qu'on ne lui avait pas souvent vue au cinéma. Moi, je la trouve très belle.
Anaïs de Moustier, un dernier mot ?
Bah non, mais c'est un film. Moi, je trouve que c'est un film merveilleux. Il faut aller le voir parce que c'est le parcours d'un personnage haut en couleur et qui c'est un film qui donne de l'élan, quoi. C'est un personnage qui est dans un souffle. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce personnage qui va vite et qui est dans un vrai élan. Et en cette rentrée du mois de septembre, ça fait du bien.
Et je me suis demandé quand l'aviez-vous tourné d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on a des films qui arrivent sur les écrans. On ne sait plus si c'était il y a un an, deux ans qu'ils étaient prévus.
Bah, dans notre malchance, on a eu la chance parce qu'on l'a tourné il n'y a même pas un an. Il y a un an, on était encore en tournage. Jusqu'au 18 septembre. Ouais, entre les deux confinements.
Ça s'intitule Les Amours d'Anaïs. C'est réalisé par Charline Bourgeois-Taquet. C'est interprété par Anaïs de Moustier, Denis Podalides, Valéria Bruni-Tedeschi. Et ça sort mercredi prochain. Merci toutes les deux d'être venues en direct sur Europe 1.
Merci. Merci.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain à 9h. Et maintenant, c'est Sonia Mabrouk. Sonia, qui est votre invitée ?
Bonjour Frédéric. L'invité du grand rendez-vous sera Bernard-Henri Lévy. Et pour l'interroger, je serai entourée de Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté.
Bonne émission, Sonia. Europe 1.